Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite.
Bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commerce Élite et on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Hélène Macquart, directrice marketing chez l'entreprise Hotbox. Hotbox, une organisation spécialisée dans les aliments et breuvages faits d'avoine canadienne, a été lancée en 2014 avec un focus seulement sur les abonnements en ligne. Le modèle a par la suite grandement évolué et on va en parler aujourd'hui pour s'intégrer dans le brick et mortier et peu à peu quitter le volet de la commercialisation en ligne. Hélène, tu travailles au marketing et aux ventes chez Hotbox depuis 2021. Maintenant, beaucoup de choses ont évolué depuis ton arrivée. Est-ce que tu pourrais peut-être me ramener à tes débuts dans l'entreprise puis nous dire quels étaient les défis marketing que tu voyais à l'époque comparativement à ce que tu vois maintenant?
Ben oui, ça me fait super plaisir d'être sur le podcast aujourd'hui. Puis si on se ramène en 2021, donc moi j'ai intégré l'équipe marketing d'Hotbox au mois de novembre, puis tout juste une semaine après le lancement de la nouvelle image de marque. Donc, ça a été un gros pivot pour l'histoire d'Hotbox. C'est le deuxième pivot, on va revenir sur le premier un petit peu plus tard. Mais j'ai eu la chance d'arriver une semaine après que le dévoilement de la nouvelle image de marque ait été fait. Donc, on passait d'une entreprise de déjeuner à une entreprise experte de l'avoine. Donc, c'est quand même tout un positionnement avec... vraiment une vue sur l'environnement, puis un soutien sur l'environnement beaucoup plus fort que ce qu'il était jusqu'à présent. Donc, ça a été tout un défi de se l'approprier au quotidien pour moi, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe marketing, que ce soit dans les contenus qu'on créait, dans les photoshoots qu'on pouvait diriger. C'était vraiment toute une nouvelle image qu'on a dû s'approprier. Puis, avec cette nouvelle image de marque, sont arrivés de nouveaux outils. Donc, on a migré, par exemple, notre site web vers un Shopify. Puis, on a eu aussi un nouveau système d'abonnement en ligne lors de ce pivot-là. Puis, ça a été toute une aventure, en tout cas, pour ce système d'abonnement. On a eu quand même une crise à gérer lorsqu'il y a eu la migration de nos abonnés. Fait que ça a été un gros défi qui m'a occupé vraiment les premiers mois lors de mon expérience chez Hotbox. On a réajusté ce système d'abonnement quelques mois plus tard. Donc ça a été vraiment un gros défi dans mes premiers mois chez Hotbox. Puis moi, j'arrivais vraiment avec une expertise numérique. C'est pour ça que j'avais été recrutée à la base dans l'équipe marketing. Fait que mes défis, ça a aussi été peut-être d'inculquer un petit peu plus cette vue du numérique à l'ensemble de l'équipe, mais aussi aux agences avec lesquelles on travaillait à la base, d'être plus peut-être en mesure de les challenger pour s'assurer qu'on avait la meilleure présence, puis qu'on prenait vraiment toutes les décisions pour exploiter le maximum de ce qu'on pouvait faire en ligne à ce moment-là.
Mmh. Et c'est intéressant parce qu'Hélène, tu mentionnais qu'à ton arrivée, il venait d'avoir la nouvelle image de marque et il y a eu quelques moments assez importants dans l'histoire d'Hotbox. Un deuxième, c'est vraiment votre arrivée dans les points de vente en 2019. Donc toi, tu viens d'un milieu du numérique. Et là, l'organisation avait commencé, comme on le mentionnait au début du podcast, en ligne avec des abonnements jusqu'à 2019. À 2019, il y a le modèle un petit peu hybride qui s'installe, une nouvelle ligne d'affaires qui s'installe également. Donc, bien entendu, des revenus que vous n'aviez pas dans le passé. Comment ce changement-là, bien entendu, tu n'étais pas dans l'organisation, mais j'imagine qu'on t'a dit un petit peu ce qui s'est déroulé. Comment ce changement-là chez Hotbox a impacté un petit peu la business à ce moment-là?
Oui, effectivement, je faisais pas partie de l'entreprise, mais ça fait tellement partie de son histoire que c'est un peu comme si je l'avais vécu finalement. Là, j'ai l'impression que ça a été le premier pivot d'Hotbox et comme tu le disais, passer d'une entreprise 100% e-com, modèle hybride, puis est arrivé avec ça des super beaux défis, mais des super belles victoires aussi. Là. Donc, pour retracer un petit peu, c'était quoi la réalité à ce moment-là? C'est vraiment une gestion des opérations qui est différente quand on parle d'un modèle 100% e-com à des ventes en épicerie. C'est se conformer à des normes en épicerie. Par exemple, les produits que tu vas envoyer doivent avoir une certaine date de consommation. C'est ce qui n'était pas forcément le cas quand on vendait en ligne. On pouvait se permettre d'avoir je sais pas moi, des produits qui expiraient peut-être 4 mois plus tard. Ben tu sais, en épicerie, il y a vraiment des normes qu'on doit respecter. Un nouveau modèle de commercialisation qui est évidemment beaucoup moins flexible que ce que l'équipe avait pu connaître jusque-là. Puis tu sais, pour prendre des exemples très précis, lancement d'un nouveau produit, notre réalité jusqu'à présent, c'était on pouvait lancer un produit aussitôt qu'il était prêt. Mais lancer une nouvelle saveur en épicerie, c'est vraiment un calendrier très précis avec des fenêtres d'ouverture pour lancer un nouveau produit. Donc, c'était vraiment moins de flexibilité, peut-être moins de visibilité aussi sur les ventes. Quand on est habitué à pouvoir suivre en temps réel ces ventes, ben, tu sais, c'est vraiment se conformer à ça, puis trouver des nouvelles stratégies d'analyse finalement liées à ça. Mais tu sais, ça a amené vraiment des super belles victoires, un public beaucoup plus large qui a découvert Hotbox grâce à l'entrée des produits en épicerie. On a eu un super beau gain de notoriété, puis surtout de crédibilité, je dirais. Le fait de voir les produits Hotbox sur les tablettes en épicerie, ben ça amène une certaine crédibilité là qui est assez immédiate. Et pour le cas très précis d'Hotbox, qu'on a pu se rendre compte aussi à travers les mois, en fait, quand nos produits ont commencé à être vendus à la fois en épicerie et sur le site web, c'est que ça a amené à une certaine confusion, en fait, due à l'image de marque. Puis ça, c'était vraiment dû au fait que les emballages des produits, en fait, n'étaient pas les mêmes. Ceux que tu recevais quand tu commandais en ligne et ceux que tu pouvais trouver en épicerie. Puis ça, c'est vraiment de là qu'est née la volonté de revoir toute l'image de marque, en fait, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une certaine confusion qui était née de ça. Puis on avait trouvé que c'était vraiment le moment de revoir finalement l'image de marque, puis d'aller un petit peu plus loin, comme je le disais tout à l'heure, passer à une entreprise experte de l'avoine et qui veut explorer son plein potentiel pour aussi montrer que l'avoine, ça se cantonne pas qu'au déjeuner. On peut vraiment le consommer à plusieurs moments de la journée. Et qu'on peut faire sa part d'un point de vue engagement environnemental en consommant ces produits-là.
Intéressant. Et bon, vous avez fait l'annonce il y a quelques semaines de cela, début 2024, que vous alliez finalement arrêter de vendre directement en ligne. Ça a été une grosse annonce. Et ça, c'est venu, j'imagine, de réflexion, d'analyse, parce que à travers les années, je pense, et on en parle un petit peu hors podcast, toi et moi ensemble, que l'approche directement au consommateur en ligne, ben on le voit, les coûts publicitaires, ça augmente, c'est plus dispendieux. Vous arrivez avec des nouveaux types de produits, des breuvages, et là, cette fois-ci, on s'en rend compte que peut-être les breuvages, pour les vendre en ligne, c'est pas la même dynamique que quand vous vendez les produits d'origine que vous aviez. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le cheminement, la réflexion qui s'est faite à l'interne, de finalement se dire, bon, on est maintenant une entreprise spécifiquement pour les points de vente. On n'est plus une entreprise en ligne.
Mais oui, absolument. Puis cette réflexion-là s'est faite en fait sur plusieurs années. Puis là, je remonte plusieurs années en arrière quand, lors du nouveau positionnement de marque, en derrière de ça, il y avait aussi la volonté de devenir manufacturier de base d'avoine liquide. En fait, la volonté de proposer des boissons d'avoine, ça fait plusieurs années que c'est vraiment dans l'objectif d'Hotbox. Plusieurs recherches ont été menées pour s'approvisionner en base d'avoine qui permettent de créer les boissons d'avoine qu'on connaît. Puis les différentes pistes explorées n'étaient pas satisfaisantes, soit d'un point de vue environnemental ou autre. Donc la décision a été prise de finalement on va le faire nous. On va devenir ce manufacturier de base d'avoine liquide, ce qui a été encore un nouveau pivot pour l'entreprise lorsqu'on a vraiment annoncé ça puis qu'on a finalement commercialisé nos boissons d'avoine. Mais ça, c'était tellement cohérent avec ce nouveau positionnement d'explorer le plein potentiel de l'avoine canadienne qu'on y a vraiment vu une opportunité d'aller encore plus loin que ce qu'on aurait été capable de faire simplement en finalement commercialisant des boissons d'avoine qui n'étaient pas produites à partir de notre propre base d'avoine. Donc, comme tu l'as dit, on a lancé nos boissons d'avoine il y a quelques mois, en fait, à l'été 2023. Puis, tu sais, on le savait déjà, on l'avait anticipé. C'est des produits qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus fragiles que les produits qu'on commercialisait jusqu'à présent, comme le granola, les gruaux, les barres d'avoine. Donc, tu sais, on le savait, là, on s'y attendait que le modèle qu'on avait exploré jusqu'à présent, c'est-à-dire les ventes en ligne, allait devoir se réinventer. Puis si on avait pour projet de continuer dans cette voie-là, ben il allait falloir y mettre beaucoup d'énergie finalement là pour trouver des nouveaux canaux de vente ou trouver des possibilités d'expédition ou autre. Donc on l'a lancé, on l'a quand même testé, puis on est quand même très satisfait d'avoir pu compter sur ce canal-là finalement de distribution pour faire de l'échantillonnage. C'est un nouveau produit qui arrivait sur le marché, puis notre volonté première était vraiment de le faire goûter à un maximum de personnes possibles en fait. Donc les ventes en ligne nous ont permis d'atteindre cet objectif-là, mais on s'est rendu à l'évidence qu'on avait vu juste ça finalement, que c'est vraiment pas un canal qui est optimal pour l'expédition de boissons d'avoine. Donc entre mettre notre énergie ici, c'est-à-dire développer des nouvelles solutions pour expédier les boissons d'avoine aux consommateurs finaux ou mettre notre énergie ailleurs, ben on a pris la décision que on devait mettre notre effort là où on pouvait faire la plus grande différence finalement, qui est aller chercher une croissance en fait optimale. Donc la décision a été prise au dernier trimestre de notre année, puis pour démarrer notre nouvelle année avec ce poids en moins là finalement. C'était vraiment, on devait maintenir ces ventes là puis c'était devenu beaucoup moins naturel qu'avec nos produits secs qu'on appelle. Donc la décision a été prise pour vraiment que ce soit un peu un renouveau là finalement pour Hotbox.
Intéressant. Et bon, à ce moment-là, quand la décision a été prise, pas nécessairement besoin de rentrer dans le spécifique, mais est-ce que les ventes en ligne représentent encore un gros pourcentage des ventes ou ça devenait de plus en plus dérisoire?
Ça représentait un pourcentage qui n'avait rien à voir avec les débuts d'Hotbox, évidemment, parce que c'était 100%, mais même à partir du moment où les produits ont été distribués en épicerie, ben c'est sûr qu'il y a une grande partie des consommateurs qui ont vu l'avantage de pouvoir trouver nos produits lorsqu'ils allaient faire leur épicerie plutôt que devoir commander en ligne. Puis si tu n'atteignais pas un certain volume de commandes, devoir payer des frais de livraison. Donc ce volume-là, tu sais, a baissé, ce qui est complètement normal là, quand on s'en va vers un modèle hybride. Ce qui fait aussi que finalement les produits que tu retrouvais en épicerie et les produits que tu retrouvais en ligne étaient pas mal les mêmes. C'est tout ce qui est exclusivité web petit à petit a diminué. Donc c'était aussi cohérent dans ce sens-là où les avantages que tu pouvais avoir auparavant de commander en ligne n'existait plus en fait. Donc ça fait partie aussi de la décision.
Et bon, là il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans le domaine du marketing, du e-commerce aujourd'hui, et peut-être qu'ils se disent, ouais, effectivement, je me suis lancé en ligne et finalement j'ai testé la distribution avec les points de vente, les ventes sont plus faciles, j'ai un pouvoir de distribution qui est plus intéressant, je peux aller plus vite. Je commence à me poser des questions. Comment qu'on peut vraiment analyser les signes qu'il est peut-être temps d'analyser dans son commerce qu'une distribution en brique et mortier, en point de vente, peut être plus intéressante pour nous que de continuer à commercialiser en ligne?
Je pense que ma réponse va pas être très originale, mais c'est vraiment de se baser sur les chiffres. T'sais, nous, on l'analysait quasiment au quotidien là. On suivait beaucoup nos chiffres, que ce soit nos chiffres de vente, nos investissements, qu'est-ce que ça nous coûtait réellement en fait de vendre en ligne, puis d'essayer d'avoir cette neutralité là de est-ce que mon modèle il est viable. Puis si la réponse est non, ça atteint peut-être d'autres objectifs qu'une croissance économique. C'est peut-être que tes ventes en ligne sont un très bon complément parce que ça te permet de gagner en notoriété, ça te permet peut-être de toucher une cible qui, je sais pas moi, vit dans des espaces assez éloignés, qui sont pas proches des points de vente que tu as réussi à adopter. Donc c'est plutôt d'analyser ça puis de faire des hypothèses. Donc de ne pas avoir peur d'explorer le champ des possibles, puis ça veut dire faire des constats très très concrets là sur les chiffres qu'on voit. Est-ce qu'on est capable d'aller en chercher plus? Est-ce qu'on est capable d'aller explorer d'autres options pour optimiser ça? Puis si au bout d'un moment t'as beau essayer de faire toutes les optimisations puis te rendre compte que ton modèle est pas viable puis que ça ne vient plus répondre à d'autres objectifs connexes, c'est de se permettre finalement d'explorer d'autres possibilités, ce qui est pas toujours évident là. Donc ça c'est serait plus pour le côté chiffre. Après, il y a vraiment le côté tout du marché. Puis ça, je trouve que c'est tellement essentiel. T'sais, écouter ses clients. Puis nous, on le voit aussi. On fait de plus en plus d'événements, que ce soit des marchés, des ventes, etc. Là. Puis qu'est-ce que nos clients nous disent? Où est-ce qu'ils ont le goût de retrouver nos produits? Puis quand les clients ont finalement pu découvrir nos boissons d'avoine, la première question qu'ils nous posaient, c'était pas « est-ce que je vais pouvoir la commander en ligne ?» C'est « où est-ce que je vais pouvoir la trouver près de chez moi ?» Et ça aussi, c'est vraiment un indicateur très très fort qu'il faut écouter. C'est analyser ses concurrents. Qu'est-ce qu'ils font les concurrents? Est-ce qu'ils vendent ces produits-là en ligne? Si oui, de quelle façon? S'inspirer même au-delà de ses compétiteurs directs à l'international avec une catégorie de produits assez similaire, ça peut aussi ouvrir vraiment l'esprit sur ce qu'il est capable de faire. Puis enfin, je dirais vraiment d'écouter son intuition, puis d'avoir la possibilité de s'entourer aussi de personnes assez visionnaires. On a la chance, notre CEO Marc-Antoine Beauvais, qui est vraiment un visionnaire, puis qui a lancé Hotbox en 2014 avec un modèle vraiment précurseur. Ben, avoir des échanges avec des personnes comme ça permet vraiment de penser en dehors de la boîte, puis d'imaginer finalement comment pourrait se dessiner l'avenir, puis que c'est pas forcément avec des outils qu'on a en ce moment, puis ça crée vraiment de la stimulation là.
Puis dis-moi, est-ce que vos compétiteurs avaient déjà fui le commerce en ligne quand vous avez pris la décision de vous simplement vendre dans des points de vente?
Non, mais c'est vraiment plus quand on a acquis les boissons d'avoine dans notre portefeuille de produits, le paysage de nos compétiteurs a beaucoup changé. Puis force était de constater que beaucoup de nos compétiteurs sur ce segment-là ne vendaient pas en ligne ou vendaient en ligne sur Amazon directement, par exemple, parce que c'était comme chauffé by Amazon là, donc avec des critères très précis. Donc c'est sûr que ça a changé aussi le paysage de nos compétiteurs. Puis ben c'est ça, s'informer, s'inspirer de ce que eux font, c'est comme une réalité commune qu'on a. Ça permet aussi de prendre des décisions éclairées.
Et la question pour toi, parce que tu viens du domaine en ligne, donc on peut suivre les ventes, on peut suivre les retours de nos investissements de notre dollar marketing. Là, on peut pas parce qu'on est dans des points de vente. Comment vous allez ajuster votre stratégie marketing autour de ça?
Ben, le numérique reste quand même prioritaire dans notre stratégie pour Hotbox, à la fois en termes de notoriété, parce que ça reste un média qui est accessible pour une startup comme nous, qui est flexible. Sachant qu'on gère aujourd'hui 100% de nos investissements numériques à l'interne, ça nous permet toujours de rejoindre nos différentes cibles. Puis on va probablement explorer d'autres plateformes qu'on a sous-utilisées jusqu'à présent. Mais notre but premier est toujours le même. On veut toujours inspirer nos clients, nos consommateurs. On veut toujours continuer d'éduquer sur les bienfaits de l'avoine, que ce soit via notre site Internet ou nos différents contenus. Fait que dans cette idée-là, le numérique reste vraiment prioritaire pour nous. C'est sûr que tout ce qui est campagne de e-com, vont être coupés, là. Mais tout ce qui est interaction avec le contenu, puis se positionner vraiment comme une entreprise inspirante pour l'ensemble de nos consommateurs, c'est primordial pour nous. Puis on est persuadé que le numérique peut nous aider là-dedans. C'est sûr qu'on va cependant devoir diversifier notre approche, surtout pour ce qui est de bâtir notre crédibilité. On le mentionnait tout à l'heure, on est très nouveau sur le marché de la manufacture de produits alimentaires. Donc, pour créer notre crédibilité, oui, ça peut passer par le numérique, mais ça va aussi passer par d'autres approches qui sont peut-être plus terrain, parce qu'on est un nouveau joueur sur le marché, puis on doit faire nos preuves là si on veut. Donc, numérique toujours très important, mais diversifié évidemment pour coller à notre nouvelle réalité.
Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend en 2024? Qu'est-ce que vous allez faire de différent pour aller continuer votre croissance?
Ben, c'est des nouveaux marchés, là, finalement, qu'on va explorer. Des marchés qu'on a aussi commencé à attaquer, si on veut, en 2023 avec la commercialisation de nos boissons d'avoine, auxquelles on va pouvoir mettre beaucoup plus d'efforts du fait des décisions qu'on a prises de quitter le e-commerce. Donc, ça va être de mettre finalement plus d'efforts, c'est ça, sur des marchés qui sont très porteurs pour nous, qui dans lesquels on voit vraiment l'opportunité de faire une vraie différence Donc c'est des super beaux défis qui nous attendent. Puis on est tous très excités de démarrer cette nouvelle année avec tous ces nouveaux défis.
Fantastique. Hélène, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je trouve ça totalement fascinant. On parle beaucoup de commerce en ligne sur le podcast, de commercialisation, de vente dans le domaine du numérique, mais de parler également du commerce parce que c'est du commerce. Le commerce, que ce soit en ligne ou que ce soit hors ligne, au final, ce qu'on veut faire, c'est vendre des produits, échanger nos produits avec des gens qui sont intéressés à les acheter. Et il y a plusieurs moyens de le faire. Donc, je trouve ça très intéressant de voir le changement de modèle. Je te remercie d'avoir pris du temps et d'avoir expliqué ça à notre audience. Pour vous rejoindre, c'est quoi les points de vente les plus populaires qu'on peut être certain de trouver du Hotbox?
Metro, IGA, Rachel Berry, puis de plus en plus de cafés de spécialité, cafés de quartier qui utilisent le lait d'avoine Barista Hotbox et qui parfois le vendent aussi à leurs clients.
Fantastique. Ben, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Hélène Macquart, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Célèbre.